Ce soir, on prend un bain de jouvence, un retour aux sources. Et quelles sources? Celles du sud des États-Unis, du sud profond, des sources chaudes et bouillonnantes. Des voix, sinon la voix la plus vibrante de la musique soul, l'incarnation même de son histoire et de sa légende, Aretha Franklin dans I Never Loved a Man the Way I Love You. Un titre qu'elle a enregistré en janvier 1967 dans le modeste studio d'une petite ville de l'état de l'Alabama dans le sud-est des États-Unis. Une ville peu connue qui s'appelle Muscle Shoals, c'est au bord du fleuve Tennessee. Alors pourquoi vous en parler ce soir? Eh bien parce que l'homme qui a été à l'origine de cet enregistrement et de tant d'autres, des titres qui ont marqué la légende de la musique soul, les tubes de Wilson Pickett, Percy Sledge, Etta James, on les entendra tous ce soir, eh bien cet homme vient de nous quitter. Alors à moins que vous ne soyez de profonds connaisseurs de cette histoire, il est probable que vous n'ayez jamais entendu parler de Rick Hall, disparu à l'âge de 85 ans. Qui était Rick Hall? Eh bien, un petit artisan visionnaire, un homme d'avant l'âge de l'industrie musicale. Il fut à la fois un entrepreneur et un musicien, maîtrisant, c'est très rare, tous les métiers de la chaîne, puisqu'il était capable de financer, bon, c'était une aptitude, d'écrire, de jouer de plusieurs instruments, de diriger un orchestre, de superviser une séance d'enregistrement et de même passer derrière la console, de tout faire quoi. Rick Hall, fondateur des célèbres studios Fame, avait une caractéristique inattendue si vous avez une connaissance superficielle de la musique soul. C'était un blanc qui venait de la musique country. Et les musiciens que Rick Hall a recruté à Muscle Shoals pour accompagner ses immenses chanteuses et chanteurs noirs étaient tous blancs. Et c'est d'ailleurs la source des frictions qui ont accompagné l'enregistrement de ce titre historique de Aretha Franklin. Alors, l'histoire est étonnante et elle mérite d'être racontée. Ce jour de janvier 1967, où la chanteuse débarque à Muscle Shoals, elle n'est pas seule. Non, il y a son nouveau mentor, une vingtaine d'années de plus qu'elle, Jerry Wexler, un blanc, qui est réalisateur artistique pour les disques Atlantic à New York, et il l'accompagne. Et c'est d'ailleurs Wexler qui a eu l'idée de ce voyage, puisque jusque-là, Aretha Franklin n'a pas été vraiment libre de donner toute sa mesure. Chez Columbia, la compagnie pour laquelle elle enregistrait précédemment, on l'a en effet bridée en l'enfermant dans des orchestrations jazzy et sophistiquées, un peu langoureuses. Wexler, qui dirige un département au disque Atlantique, sait que la force de Aretha Franklin, c'est ses sources gospel. C'est le gospel qu'elle chantait à Détroit, au temple baptiste où son père officiait comme révérend. Alors pourquoi Wexler a-t-il fait ce choix de Muscle Shoals? Eh bien, il se trouve que l'année précédente, en 1966, un tube mondial est sorti du petit studio que Rick Hall avait fait construire à Muscle Shoals, le fameux One a Man Loves a Woman de Percy Sledge. Alors Wexler se dit que c'est là qu'il faut aller pour faire décoller la carrière de Aretha Franklin. Seulement, voilà, le terrain est extrêmement miné. Pourquoi ? Parce que l'Alabama est une terre profondément raciste. Le gouverneur de cet État, célèbre en son temps, George Wallace, a en effet déclaré en 1963, c'est pas si vieux, « Ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours ». Voilà. Alors le mari de Aretha Franklin, Ted White, est aussi du voyage. Alors il faut être sur ses gardes, sur ses terres. Arrivé au studio du couple et de Wexler, première bourde de Rick Hall, selon son propre témoignage. Alors que Wexler avait expressément demandé que les cuivres soient tenus par des musiciens noirs, en l'occurrence ceux des studios Stax de Memphis, les Memphis Horns, histoire de créer un climat accueillant, Hall a aligné des musiciens blancs. Alors le mari de Aretha, qui est réputé pour être un homme pas très commode, s'assoit dans un coin, les bras croisés, impassible, derrière ses lunettes miroirs. Alors, histoire de réchauffer l'ambiance, un des cuivres blancs lui propose de partager une bouteille de whisky. Mauvaise idée, le mari, ombrageux, est choqué par une remarque familière que le cuivre blanc ose faire sur Aretha. Qu'est-ce qu'il fait ? Il exige qu'on vire le musicien séance tenante. Wexler, qui veut évidemment qu'il n'y ait pas de vague, dit « mais d'accord, bien sûr, il dégage ». Rick Hall, lui, proteste, mais pour le New Yorkais Wexler, Hall, c'est quoi ? C'est qui ? C'est un bouseux qu'il doit s'estimer heureux qu'on soit allé le trouver. Alors, un titre est mis en boîte, celui qu'on a entendu, « I never loved a man the way I love you », mais en fait, c'est tout un album qui est prévu. Seulement, voilà, la séance se termine sur l'enregistrement d'un seul titre. Aretha et son mari quittent les lieux et rentrent à l'hôtel. Et Rick Hall, lui, est absolument furieux de s'être ainsi fait humilier. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il boit un bon coup pour se donner du courage et il se rend à l'hôtel du couple. Il tambourine à leur chambre et il commence à échanger des insultes racistes et des coups de poing avec le mari de Aretha qui, quant à elle, a couru se réfugier dans la salle de bain. Ted White, donc le mari, finit par virer Rick Hall, qui, pas calmé, descend dans le hall et demande à utiliser le téléphone de la réception. Et le gars continue à hurler et à insulter le mari de Aretha Franklin. « Allez, descends, fils de pute, je vais te botter ton cul d'enfoiré », des trucs comme ça. Alors les cris de Rick Hall font sortir Jerry Wexler de sa chambre, il était dans le même hôtel, il descend l'escalier en hurlant à son tour « Espèce de taré, je t'avais dit de pas venir ici, plus jamais je viendrai enregistrer chez toi, t'as compris, t'es mort, je vais t'enterrer vivant ». Commentaire rétrospectif de Rick Hall, qui avait eu le temps de dessouler. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ce gars, Wexler, il m'avait mis son bras autour du cou. Il m'avait dit que grâce à lui, je gagnerais plein d'argent. Et ça m'avait fait plaisir d'entendre ça. Alors bon, Rick Hall s'en est remis, tout le monde s'en est remis, même très bien. Il faut dire que jusque-là, il avait été très bien entouré. La preuve ce soir sur France Inter.
Give up the hand of a girl I love. You tell me I'm not the man she's worthy of. But who are you to tell her who to love? That's up to her. Yes, and the Lord above. Better move on.
But I believe she's happy with me without those things. Still you beg me to set her free, but my friend, that will never be. You better move on.
Everybody, un tube aux États-Unis et en Grande-Bretagne en 1963 pour un rocker qui venait de Atlanta en Géorgie et qui s'appelait Tommy Roe, R-O-E. Alors il était, ça s'entend, très inspiré par le style du Texan Buddy Holly. Roe a enregistré ce titre au studio Fame en 1963 à Muscle Shoals, le troisième studio Fame du nom. Parce que le premier, établi par Rick Hall, alors je vous ai parlé tout à l'heure de ce campagnard ambitieux, eh bien Rick Hall l'avait bricolé en 1959 au-dessus d'une pharmacie droguerie à Muscle Shoals, après quoi il avait investi une fabrique de tabac désaffecté, et c'est là qu'il avait réuni en 61 une première brochette de musiciens de country blancs comme lui pour enregistrer une chanson en laquelle il croyait dur comme fer et qui s'appelait You Better Move On. Vous l'avez entendu, l'interprète en était un jeune artiste noir, Arthur Alexander, qui était alors âgé de 21 ans. Cet Alexander travaillait alors comme portier dans un hôtel Holiday Inn à Sheffield, la petite ville qui est collée à Muscle Shoals sur la même rive du Tennessee. Et Alexander avait écrit cette chanson lui-même et Rick Hall avait eu beaucoup de flair, il savait que c'était un classique, mais cela dit, il a longtemps été le seul, parce que dans un premier temps, quand il a essayé de vendre cette chanson à des maisons de disques à Nashville, il n'a essuyé que des refus, jusqu'au jour où le responsable de la compagnie Dot, dont le siège était à Hollywood, a accepté de prendre le risque, bien lui en a pris. You Better Move On est ainsi devenu un succès national en 62, vite repris par le rocker blanc du Midwest, Bobby V, un copain de jeunesse de Bob Dylan, mais c'est surtout la reprise que les Rolling Stones ont faite en 64 qui a immortalisé cette chanson. D'ailleurs, je me rappelle ça, Willie DeVille l'interprète magnifiquement sur scène au début des années 80. Il l'a enregistré dans un album qui s'appelait Coup de Grâce. Voilà. Alors la même équipe de musiciens qui soutenait Arthur Alexander accompagnait l'année suivante, en 64, les Tams, un groupe noir vocal de Atlanta. Vous les avez entendus chanter What Kind of Fool Do You Think I Am, qui c'était un tube aux États-Unis. Alors dans cette équipe, il y avait notamment le pianiste David Briggs, un musicien qu'on allait retrouver bientôt auprès des plus grands, Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison. Alors voilà, l'étonnant dans cette aventure de Rick Hall et des studios Fame, c'est que malgré les obstacles, la défiance mutuelle, les préjugés, le contexte politique et social, enfin le racisme en un mot, eh bien ça a fonctionné. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'Alabama, c'était pas gagné parce que l'Alabama abritait une des factions les plus radicales de la fameuse secte raciste, le Ku Klux Klan. Et eh bien malgré tout ça, le mélange entre artistes blancs et noirs s'est fait à Muscle Shoals. D'ailleurs, il s'était fait de la même façon dans ces années-là à Memphis, à l'initiative d'un violoniste de musique country, Jim Stewart, blanc également. Memphis qui se trouve à 2-3 heures de voiture de Muscle Shoals. On traverse un beau paysage de forêt pour aller vers l'ouest. Alors chez Stax, il y avait un chanteur vedette que tout le monde connaît, Otis Redding. Et en juillet 66, il se trouve que Otis Redding était de passage à Muscle Shoals. Rick Hall lui a demandé d'enregistrer une version témoin d'un titre qu'il venait de composer avec Dan Penn, un des meilleurs compositeurs de la région, dans ce style, un titre qui s'appelait « You Left the Water Running ». Et Wilson Pickett, qui devait enregistrer la chanson, s'est inspiré de cette version pour graver la sienne. En revanche, la maquette de Otis Redding est restée inédite jusqu'en 76 et elle est assez rare, difficile à trouver. Et ce qui est également rare, c'est que Otis s'y accompagne à la guitare. Et tout de suite après, vous entendrez Wilson Pickett en personne dans sa version de Land of a Thousand Dances, une chanson de la Nouvelle-Orléans dont il a enregistré une version électrisante à Muscle Shoals. Mais tout de suite, c'est Otis Redding sur France Inter.
1, 2, 3. Play. Another guy, honey.
time.
Very Good Trip sur France Inter, Mishka Assayas.
Un hommage au grand chanteur soul signé en 1967 par Arthur Conley, un garçon de 20 ans qui venait de Atlanta, lancé comme le protégé de Otis Redding. Un titre resté légendaire qui a été celui d'un livre écrit 20 ans plus tard par le grand historien de la musique populaire américaine Peter Guralnick. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, Arthur Conley a enregistré cette chanson non pas chez Stax mais au studio Fame à Muscle Shoals. Et ses accompagnateurs sont des musiciens blancs, ceux qui se faisaient surnommer les Swampers. On pourrait traduire ça par les soutiers. Rick Hall, qui a alors engrangé quelques bénéfices grâce à ses succès, a pu bâtir un nouveau studio à Muscle Shoals sur Avalon Avenue. C'est même lui qui en a dessiné les plans. Ça ressemble à une longue maison Playmobil avec un toit en tôle ondulée marron. Alors, il est peut-être temps de tracer un bref portrait de ce Rick Hall dont je vous parle depuis le début de l'émission, l'homme qui a mis Muscle Shoals, une petite ville endormie du sud que personne ou presque ne connaissait, et d'ailleurs ça n'a pas tellement changé, on la connaît pas tellement aujourd'hui, au centre de la musique populaire américaine. Alors son histoire à Rick Hall est de la matière dont on fait les mélodrames. Il voit le jour en 1932, une enfance misérable dans une cabane au milieu des bois. On vivait là-dedans comme des animaux, racontera-t-il, un matelas bourré de paille, l'eau qu'on va chercher non pas au puits mais directement à la source, un père ouvrier dans une scierie et puis simple métayer. Et cet homme se balade avec un Colt à gros calibre. Pourquoi ? Pas pour sa sécurité personnelle, non, mais pour buter sa femme le jour où elle aurait le malheur de le recroiser. Parce que celle-ci, une vraie beauté, selon le témoignage de son fils, n'a pas supporté cette existence. Elle a fui le domicile familial et pour refaire sa vie d'une façon inattendue, puisqu'elle travaille dans un bordel. Voilà. Heureusement, il y a la musique. Le père aime le gospel. Le garçon apprend la mandoline et la guitare. Et après un passage dans une usine du Nord, dans l'Illinois, où il apprend le métier d'outilleur, Rick Hall revient travailler dans une usine d'aluminium de sa région. Le samedi soir, il joue dans un orchestre country. Et alors, ses débuts dans la vie sont absolument tragiques. La très jeune femme qu'il épouse perd la vie dans un accident de voiture. C'est lui qui était au volant, il a fait un écart pour éviter un chauffard. Et 15 jours après, c'est son propre père qui meurt, écrasé par son tracteur qui s'est retourné. Alors là, c'en est trop. Le garçon s'effondre, on le comprend. Il trouve refuge dans la boisson et, selon son témoignage, il mène plusieurs années d'une vie, enfin, qu'on pourrait qualifier pudiquement d'itinérante, enfin, une vie de vagabond et de clochard. Mais il s'en sort et il renaît armé d'une volonté de fer. Il veut faire de Muscle Shoals un centre de la musique populaire américaine. Il faut dire que dans cette ville, il y a des exemples illustres. Dans la ville de Florence, qui est située juste en face de l'autre côté du fleuve Tennessee, pour être précis, à quatre petites villes qui sont juxtaposées et qui forment une espèce de conurbation, Muscle Shoals étant une des quatre, dans cette ville de Florence a vécu un certain W.C. Handy. C'est cet homme qui, au début du XXe siècle, a été le premier à faire connaître le blues dans tous les États-Unis. Mais enfin, pour se faire connaître, il s'est établi à Memphis, dans l'état voisin du Tennessee. Tout comme un autre illustre natif de la région, le blanc Sam Phillips, le fondateur des studios Sun et le grand découvreur de Elvis Presley. Mais Rick Hall, comme je vous ai dit, il veut être le premier à rester au pays, hein, comme on dit, et à faire de Muscle Shoals, voilà, une ville célèbre. Et il va y parvenir, parce que lui et son équipe sont capables d'attirer les meilleures chanteuses et les meilleurs chanteurs, chanteuses, ben, par exemple celle-ci, Etta James, une des plus grandes voix de la seconde moitié du XXe siècle. C'est une métisse qui a fait des débuts fulgurants très jeune à Chicago à la fin des années 50 et qui s'est illustrée durant une carrière de plus de 50 ans dans tous les styles, rhythm and blues, soul, jazz et même disco. Tell Mama, c'est un titre interprété par Etta James, composé par Clarence Carter, je vous en parlais tout à l'heure. Il était enregistré en 67 à Muscle Shoals. You've been misused. Talk to me. How can I put out the flame when you keep the fire burning? Comment éteindre la flamme si tu continues à alimenter le feu? Une interrogation désespérée. Celle d'une chanteuse à la voix exceptionnelle, Candy Staton. Son timbre écorché et rocailleux, typique du Sud, fait merveille dans ce titre de 70, au classicisme soul encore pur, enregistré au studio de Muscle Shoals dans l'Alabama. Alors tout de suite, la chanson qui sans doute résume à elle toute seule ce qu'a été la soul de Muscle Shoals. Cette chanson a été le seul et unique tube en 66 du regretté Percy Sledge, qui nous a quitté il y a un peu plus de 2 ans déjà. Alors cette chanson, on peut dire qu'elle a été doublement un tube, puisqu'elle a été une des sources d'inspiration, je dis bien une, hein, pas de toutes, du fameux A White Shade of Pale du groupe anglais Procol Harum, un succès mondial en 1967. Alors l'histoire de When a Man Loves a Woman est assez curieuse. Percy Sledge, c'était un enfant du pays, hein, il venait de la région de Muscle Shoals. Ce garçon de la campagne, enfant, ramassait le coton et il aimait chanter dans les champs, à gorge déployée, rêvait de devenir une star. Mais en attendant la gloire, il s'est retrouvé père de 5 enfants à 25 ans et il travaillait tantôt comme infirmier dans un hôpital et tantôt comme ouvrier du bâtiment. Et un de ses copains lui avait proposé de chanter au sein de son groupe. Alors un soir en tournée, le malheureux Percy Sledge, en mal d'amour, descend quelques verres d'alcool fort avant de monter sur scène. Il demande à ses musiciens de jouer en boucle une suite d'accords de leur choix, ça lui est complètement égal, de toute façon voilà, il s'en fiche. Et que fait-il? Il se met à improviser des paroles et une mélodie qu'il a en tête depuis l'enfance. Et les paroles lui viennent comme ça, au fur et à mesure, et c'est comme ça que la chanson est née. Elle est enregistrée par un concurrent de Rick Hall à Muscle Shoals, un certain Queen Ivy, c'est un DJ noir, mais ce sont les musiciens de son équipe, les Swampers, les blancs Jimmy Johnson, un guitariste et également ingénieur du son. Il faut préciser qu'il disposait que de 2 magnétophones mono pour enregistrer ça. Il y a Spooner Oldham à l'orgue Farfisa et Roger Hawkins à la batterie. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.
Thing he's found. If she is bad,
Dérigo Trip sur France Inter.
What would I give for just a few moments? What would I give just to have you near? Tell me you will try to slip away somehow. Oh, I need you, darling. I want to see you right now. Can you slip away? Slip away. Slip away, yeah. Oh, I need you so. Love, oh love, how sweet it is. When you steal it, darling, let me tell you something now. How sweet it is. Now I know it's wrong, the things I ask you to do. Just slip away without him knowing you're gone. Then we could meet somewhere, somewhere where we're both are not known. And just can you slip away? Slip away. Slip away, yeah. I need you so. Slip away, baby. I'd like to see you right now, darling. Can you slip away now, baby? 'Cause I got to.
Slip Away, c'était Clarence Carter en 1968, enregistré au studio Fame à Muscle Shoals. Clarence Carter, un chanteur et musicien noir de l'Alabama, il était aveugle comme Ray Charles, et d'ailleurs comme lui, avait appris la musique avec succès dans un institut qui dispensait un enseignement en braille. Clarence Carter, vous le connaissez peut-être par l'adaptation d'un de ses succès entre country et soul qu'en avait fait Eddie Mitchell. La version originale s'appelait Patch. Et Eddie Mitchell avait adapté en Cash, en 72, Cash, j'ai toujours payé Cash, mes querelles et mes amours, ça vous dit peut-être quelque chose. D'ailleurs, Eddie Mitchell a été sidéré de voir, quand il est arrivé à Muscle Shoals, que les musiciens qui jouaient dans tous ces titres soul qu'il admirait tant, eh bien, étaient tous blancs. Alors oui, la plupart des chanteuses et chanteurs que Rick Hall a accueillis chez Fame dans les années 60 étaient noirs, même si les compositeurs et accompagnateurs étaient, comme je vous l'ai dit, souvent blancs. Mais enfin, ces croisements inspiraient de nombreux musiciens des États-Unis, enfin de la région en tout cas. Ainsi, cette chanson de Dan Penn et Spooner Oldham, I'm Your Puppet, elle avait été créée en 66 à Muscle Shoals par un duo de chanteurs noirs qui venaient de Floride, James and Bobby Purie. Et elle a été reprise magnifiquement l'année suivante par un garçon blanc de 16 ans, originaire de Memphis, Alex Chilton, au sein d'un groupe qui s'appelait les Box Tops, un groupe célèbre pour son tube The Letter. Alors tout de suite, prêtez bien l'oreille, il y aura une chanson tout à fait exceptionnelle, composée et enregistrée toujours à Muscle Shoals, sous la direction de Rick Hall, par la chanteuse country du Mississippi, Bobby Gentry. C'est une chanson qui décrivait avec un réalisme cruel le sort de certaines femmes, comme cette Fancy, qui donne son nom à la chanson. Cette Fancy à qui sa mère, atteinte d'une grave maladie, demande, enfin entre les lignes, de se prostituer pour subvenir aux besoins de sa très jeune sœur, et dont le thème entrait étrangement en résonance avec l'histoire personnelle de Rick Hall. Tout de suite, Alex Chilton avec les Box Tops dans I'm Your Puppet.
Pull a string and I'll wink at you. I'm your puppet. I'll do funny things if you want me to. I'm your puppet. I'm yours to have and
to snap your fingers and I'll turn you some flips. I'm your puppet. Just a toy, just a funny boy that makes you laugh when you are blue. I'll be warm or cold, do just what I'm told. I'll do anything for you. I'm your puppet. Oh, I'm your puppet.
We lived in a one-room, run-down shack on the outskirts of New Orleans. We didn't have money for food or rent, to say the least, we were hard-pressed. Then Mama spent every last penny we had to buy me a dancing dress. Mama washed and combed and curled my hair, and she painted my eyes and lips. And then I stepped into a satin dancing dress. It was split on the side, cleaned up to my hips. Well, it was red velvet trim, and it fit me good. And staring back from the looking glass was a woman where a half-grown kid had stood. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, please. But if you want out, well, it's up to you. Now, don't let me down. Your mom's gonna help you move uptown. Dad, a little bit of perfume on the neck, and she kissed my cheek. And I saw the tears well up in her troubled eyes when she started to speak. She looked at a pitiful shack, and then she looked at me and took a ragged breath. Your paw's run off, and I'm real sick, and the baby's gonna starve to death. She handed me a heart-shaped locket that said, to thine own self be true. And I shivered as I watched a roach crawl across the toe of my high-heel shoe. It sounded like somebody else that was talking, asking Mama, what do I do? And just be nice to the gentleman, Fancy, and they'll be nice to you. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do. But if you want out, well, it's up to you. Now get on now, girl, you better start moving uptown. Well, that was the last time I saw my ma, then I left that rickety shack. Cause the welfare people came and took the baby, ma died and I ain't been back. But the wheels of fate had started to turn, and for me there was no way out. And it wasn't very long till I knew exactly what my mom had been talking about. I did what I had to do, but I made myself a solemn vow that I was gonna be a lady someday, though I didn't know when. I couldn't see spending the rest of my life with my head hung down in shame. I might have been born just plain white trash, but Fancy was my name. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. Here's your one chance, Fancy, don't let me down. It wasn't long after a benevolent man took me in off the street. And 1 week later, I was pouring his tea in a five-room hotel suite.
Yes, you were.
Well, I charmed a king, a congressman, and an occasional aristocrat. And I got me a George. Georgia mansion in an elegant New York townhouse flat, and I ain't done passed yet. Now in this world there's a lot of self-righteous hypocrites that would call me bad and criticize my mama for turning me out, no matter how little we had. And though I ain't had to worry about nothing for now 15 years, I can still hear the desperation in my poor mama's voice ringing in my ear. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Here's your one chance, fancy, don't let me down. Lord, forgive me for what I do, but if you want out, well, it's up to you. Now don't let me down, your mama's gonna help you move uptown.